are powerful.
We run this mother.
La femme puissante est un genre de monstre.
Y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire, t'as du clito.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Eh bien nous, pendant les vacances de Noël, nous célébrerons les femmes puissantes, dirigeantes, chirurgiens, philosophes ou actrices. Et ce dimanche, la papesse de la com, bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Deuxième étage.
Bonjour Améo.
Bonjour Léa.
Merci de nous recevoir. J'allais dire chez vous, mais en fait...
Quasiment, parce que je passe finalement presque plus de temps ici que chez moi.
Alors ici, c'est où? C'est Image 7.
Image 7, c'est ma boîte, mon quatrième bébé, voilà. Ouais.
On peut rentrer dans votre bureau?
Bien sûr, je vous en prie.
Merci. C'est assez chic. On est dans un hôtel particulier.
Oui.
Il y a combien d'étages?
Rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième, quatrième. Quatre.
Quatre pour abriter 70 salariés à peu près?
75 maintenant.
Ah, vous avez
Moi, je pense que c'est important d'être bien dans les lieux où on travaille.
Parfois, on n'a pas le choix.
Beaucoup de temps. Oui, mais moi, j'ai le choix. Attendez, être chef d'entreprise, c'est beaucoup de travail, mais c'est la liberté. Et on y reviendra peut-être.
Oui, vous allez nous l'expliquer.
C'est ce qu'il y a de plus important, la
Vous
liberté.
Allez nous l'expliquer. Voilà. Dernière chose, il y a quelques photos, là.
Je ne les ai pas mises pour vous.
Ah, elles étaient là.
Mais c'est le père et le fils Pinault, qui sont deux personnes que j'aime beaucoup et avec qui... Je travaille depuis 30 ans.
Ouais, voilà. Le père Pinault est un de vos premiers clients.
Ça a été François mon quatrième Pinault. Client. Voilà. Et là, c'est mon fils bébé.
Voilà. Donc il y a François Pinault et Giscard, deux photos.
Mais vous remarquez que sur la photo de Giscard, c'est moi là qui me penche. Mais à côté, il y a Chirac, Juppé et Sarko.
Ouais.
Qui ont l'air de gamins, hein. C'est drôle.
Voilà, et une photo aussi, avec, de vous avec Giscard, une photo de vous avec François Pinault. Je pense que ça vous résume. Bien.
Oui, j'espère ne pas être résumé à ma vie professionnelle et à Giscard et Pinault. Ce
voir.
Sera embêtant. Hein.
On va voir.
Voilà.
On s'installe?
Ouais.
Ce qui marque d'abord chez elle, c'est sa blondeur, son sourire chaleureux et sa poignée de main énergique quand elle vous accueille. Elle aurait pu n'être qu'une grande bourgeoise des beaux quartiers, bien mariée, mondaine. Elle est en fait une chef d'entreprise redoutable. Elle dirige depuis 30 ans l'une des agences de com les plus importantes de France, Image 7, qu'elle a fondée seule à 30 ans à peine. Elle conseille la moitié du CAC 40, de François Pinault à Carlos Ghosn. Mais avant les patrons, elle s'occupait des politiques, de droite, parfois très à droite, de Valéry Giscard d'Estaing à François Fillon, en passant par Alain Madelin, elle les a presque tous coachés. Ceux qui la craignent disent qu'elle est brutale, dure, capable de tout. Ceux qui l'aiment disent qu'elle est loyale, franche, qu'elle ne vous laissera jamais tomber, qu'elle est cash aussi, mais que c'est une qualité. Elle donne des interviews au compte-gouttes, préfère mettre en avant ses clients, mais quand elle accepte, elle va droit au but. Pas de tergiversation, de minauderie avec elle. Elle n'aime pas ça. Anne Méo est notre invitée. Anne Méo, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi ?
J'accepte le terme, vous voyez, même si je n'y aurais pas pensé, parce que moi, c'est pas que le mot me dérange, parce que maintenant que vous m'en parlez, j'aime la force qu'il y a dans ce mot, qui, allié à un peu de courage, permet de faire bouger les montagnes. C'est quand même ça qui est intéressant. Donc ça me plaît. En revanche, j'ai une aiguë conscience que la roche tarpéienne est proche du Capitole, et qu'en gros, la puissance est fragile, jamais durable. Et puis après, il y a encore autre chose, c'est que ça dépend ce qu'on en fait. Si on se sert de sa puissance pour amoindrir les gens, contraindre, c'est totalement malsain. Si on s'en sert pour aider des gens qui ont peut-être moins de chance que nous, on en a eu, là, c'est très positif.
Mais comment vous expliquez que beaucoup de femmes aient du mal à se dire femme puissante? Je crois que dans toutes que j'ai interviewées, la seule qui a dit « oui, je suis une femme puissante », c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Les autres avaient du mal avec ça, comme si c'était suspect.
Je pense qu'on est moins dans le regard des autres que les hommes. Parce que le pouvoir, c'est que l'autre se dise « ah là là Et alors ça, moi, je peux vous dire que je m'en fous, mais alors... complètement, et c'est très sincère.
Vous dirigez donc depuis 30 ans l'une des agences de com les plus importantes
j'ai,
de
j'ai
France.
Créé.
Vous l'avez créée il y a...
Parce que finalement, je n'ai jamais eu de patron.
Exactement. De François Pinault, on en parlait à Martin Bouygues, en passant par Carlos Ghosn, ou encore le jeune John Elkann, qui est l'héritier Fiat. Conseiller tous ces patrons, tous ces hommes, est-ce que ça procure un sentiment de puissance ?
Non, ça, ce serait une question de mec. Vous voyez, il y a presque la connotation sexuelle. On vous voit avec le fouet. Non, franchement, ça, c'est des conneries. Moi, je ne côtoie globalement que des gens qui m'intéressent. Donc, des gens qui ont fait des choses, des gens dont il faut que je comprenne à la fois l'entreprise, le cours de bourse, mais aussi la psychologie, ce qui l'émeut. Parce que si vous voulez bien conseiller quelqu'un, faut comprendre leur boîte, faut comprendre l'environnement, il faut comprendre le bonhomme. Je dis toujours que la com, c'est le latin et le grec. C'est le latin parce que ça vous oblige à remettre les choses à l'endroit, comme dans les déclinaisons. Il faut être extrêmement construit. Et le grec, c'est les chemins de traverse où faut trouver l'idée originale, le truc différent, etc. Et j'ai la chance d'avoir un métier où on peut concilier à la fois une extrême rigueur intellectuelle et une fantaisie totale.
Et il n'y a pas, au-delà de ça, un petit plaisir à se dire « j'influence ».
Je crois que je vous le dirais. Et vous savez ce qui m'a plu dans votre... J'ai réfléchi à votre question là, sur la puissance. Autant je déteste le mot « influence », je préfère le mot « puissance ». Parce qu'au fond, c'est plus franc. Alors moi, j'ai des tas de défauts, mais tous les gens, même ceux qui ne peuvent pas me voir, vous diront, je suis extrêmement cash et extrêmement direct.
Alors justement, voilà. On va en parler de vous.
Et je crois, si vous voulez, que l'influence, il y a quelque chose de tordu. Et je ne suis pas tordu.
Donc vous préférez la puissance, c'est plus franc, plus honnête, oui. Plus droit. Oui. On va parler de votre côté cash, parce que ça revient en permanence. Mais d'abord, comme à chaque femme, je demande un objet qui incarne, selon elle, les femmes puissantes. Qu'est-ce que vous m'avez ramené?
Pour moi, un objet, c'est avant tout un livre. Si on était chez moi, vous verriez, il y a des livres partout dans la cuisine. Je mets des livres partout. J'ai apporté la Pléiade de Camus parce que pour moi, il y a tout dans Camus. Camus, c'est la célébration de la mère. La femme est puissante puisqu'elle donne naissance et elle crée. Et chez Camus, pour moi, il y a la passion de la vie parce que justement, on sait qu'elle peut s'arrêter à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. Et puis, il y a le mythe de Sisyphe où la grandeur de l'homme, c'est de pousser son rocher, même s'il redescend. Mais la fierté de l'homme, c'est de le pousser en montant, que c'est l'amour, ce qu'on bâtit dans la vie, qui est le plus grand défi. Et ça vous ramène au chef d'entreprise. Parce que je pense que le chef d'entreprise, je ne parle pas forcément du manager, là je parle du mec qui crée sa boîte, c'est un défi à la mort.
Alors votre caractère, justement, ouais. Anne Méo, tous les portraits que j'ai lus de vous, tous ceux qui vous connaissent disent, je vous cite, « Anne Méo, c'est un garçon manqué. Anne Méo, elle a des qualités d'homme. Elle est rustre comme un mec. » Être comparé aux hommes, qu'on dise de vous que vous êtes un mec, ça vous
Est-ce
plaît
que vous trouvez que j'ai l'air d'un mec?
Comme ça, physiquement, pas tellement, mais qu'une femme qui en a, d'une certaine manière, qui a une forme de courage, qui a une forme de franc-parler ou qui est grande gueule, soit forcément, on dit « Ah bah c'est un mec ».
Alors d'abord, je ne me sens pas du tout masculine, hein. On va être très clair, mais alors pas du tout. J'ai toujours grandi et évolué dans des milieux d'hommes. J'avais un frère, pas de sœur. J'ai eu beaucoup d'amis, copains, garçons.
Et puis dans tous vos clients, pardonnez-moi de vous dire.
Ah oui, mais alors ça, c'est parce que ce soit en politique ou dans le business, les gens de pouvoir ou qui bâtissent des trucs pour le moment, mais c'est, je pense que dans 10 ans, ce sera déjà différent. Les choses ont déjà évolué.
Mais vous avez combien de femmes dans tous vos clients? Quasiment aucune.
Une femme qui s'appelle Christelle Bory.
Il y en a une ou deux.
Oui, il y en a 3 ou 4. Oui.
Voilà.
Oui. Vous avez raison, il y a très peu de femmes, mais en même temps, il y a de plus en plus de femmes plutôt dans les directions financières. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et puis, il y a plus de femmes dans des start-up, par exemple.
On parle aussi de votre style rugueux, brutal. On dit que des patrons choisissent votre agence juste pour ne pas vous avoir, vous, Anne Méo, sur le dos comme adversaire.
Ça, je pense que c'est mes concurrents qui disent ça, parce que je ne connais pas un homme qui doit, ou une femme... qui a un compte de résultats et qui paie des gens, surtout qu'on a quand même des tarifs du marché, hein, juste pour ne pas les avoir contre eux. En plus...
Mais donc vous assumez qu'il y a un côté où vous faites peur. J'ai lu les surnoms,
parce que
vous appelez Cruella.
Oui, enfin ça, c'était un concurrent parce qu'il n'a pas supporté que je monte ma boîte et que ma boîte devienne beaucoup plus grosse que la sienne. Je pense que ça commence à diminuer. Mais quand vous êtes une femme et que vous réussissez, on est obligé d'essayer de vous caricaturer en homme. Interrogez les gens qui me connaissent vraiment, les gens qui travaillent avec moi.
Enfin, donc c'est des caricatures que de dire, parce que vous avez réussi.
Oui.
Donc forcément,
ah, mais je pense,
vous êtes dangereuse ou brutale.
Oui, au début, quand on veut
disqualifier
une femme, on, forcément. Et puis vous savez, en politique, ça démarre comme ça. Ou vous êtes, pardon, je vais être grossière, on va dire sotte, et vous êtes tapé tout le monde. Et donc si on ne peut pas vous coller ça comme étiquette, ben, vous êtes forcément dur. Vous voyez ? Alors qu'un homme.
Vous le dites de manière plus cash en général. Vous dites soit en politique, les femmes, c'est soit des connes, soit des salopes.
Oui. Enfin, ça n'est pas ça. Mais oui, on essaie de vous coller dans cette catégorie. Je pense que ça évolue très sincèrement beaucoup. Voilà.
Écoutez cette chanson. Ça s'appelle Les gens qui doutent. C'est d'Anne Sylvestre.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
Est-ce que vous doutez parfois ?
Oui, beaucoup. En permanence. Et moi aussi, j'aime les gens qui doutent. Et d'ailleurs, les grands chefs d'entreprise ou les grands politiques pour qui on a du respect doutent. Vous savez, ils doutent en permanence. Et moi, je pense que plus on est intelligent, plus on a conscience des risques, mais on a la force de choisir. Donc moi, je crois au doute, mais au choix.
Votre amie Catherine Ney dit « Anne Méo peut être très dure, elle n'aime ni les médiocres, ni les faibles. »
C'est pas vrai. Je pense pas que ce soit vrai. Alors, je n'aime pas la médiocrité, je n'aime pas les comportements médiocres. Mais, D'abord, je suis moi-même, j'ai d'énormes faiblesses. Et je pense qu'on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie. Et je pense justement qu'on a un devoir d'aider les plus faibles.
Donc c'est marrant parce que complètement. Elle se trompe
Et pourtant, je l'aime beaucoup, mais elle se trompe complètement. Oui, oui.
Et cependant, vous revendiquez votre côté cash. Vous minaudez pas, vous allez droit au but.
Peut-être parce que je suis plus sûre de mes neurones que de mon physique. Mon père était médecin, ma mère était professeure de latin grec. Il y avait des livres plein à la maison. Moi, j'ai été très bonne élève. Et mes parents m'ont donné beaucoup d'amour et beaucoup de confiance en moi. C'est une chance, c'est gonflé de le dire, mais j'ai confiance en moi, en mon jugement et tout. En revanche, je me regarde pas.
Pour les gens qui ne vous connaissent pas, moi, je peux vous décrire. Vous êtes une belle femme qui a l'air bourgeoise, qui est blonde, qui peut détonner avec ce style cash, au fond. Quand on vous voit, on pourrait vous imaginer plus bourgeoise que vous n'êtes. Vous l'êtes moins dans votre parole.
Moi, je ne pense pas être bourgeoise du tout, non. Moi, j'ai eu une rupture de vie. Mon père est parti, j'avais 16 ans. Maman ne voulait pas divorcer, donc on s'est retrouvés sans un rond. Je me suis occupée de ma mère qui était en dépression. Moi, je suis devenue chef de famille à 17 ans.
Voilà. Et à ce moment-là, vous vous dites,
je ne dépendrai que de moi. Mon père nous parlait du devoir de désobéissance. C'est-à-dire que c'est assez curieux comme éducation, j'essaie de la transmettre à mes enfants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas obéir aux ordres iniques. Il faut avoir le jugement pour savoir, ce n'est pas parce que le plus grand nombre pense un truc que c'est vrai, et ce n'est pas parce qu'on vous donne un ordre qu'il faut le faire. Il faut que soi-même, dans son libre arbitre et son jugement, on ait envie de le faire. Si on revient à votre sujet d'émission, c'est peut-être ça le seul intérêt de la puissance. C'est de vous donner la liberté d'avancer sans compromis. Pour moi, c'est pas un truc d'homme, c'est un truc de vie.
Vous parlez souvent de votre père, ça revient souvent chez toutes les femmes puissantes que j'ai pu interviewer.
Enfin, mon père, il m'a aussi probablement aidée en partant, ce qui est très compliqué.
C'est-à-dire qu'un matin, il est parti de la maison et il est parvenu.
Oui, et puis on va dire qu'on s'est... J'ai pris la défense de ma mère, je l'ai engueulé, forcément. Et en fait, il est mort sans que je l'ai revu.
Qu'est-ce que ça vous a appris, cette rupture avec le père ?
Non, ce qui m'a surtout appris, c'est... Vous avez quelqu'un que vous aimez, vous lui envoyez une lettre parce que vous sentez que... Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, j'ai envoyé une lettre à mon père, je lui ai dit, écoute, tout ça est idiot, je t'aime. Je sais que tu m'aimes, parce que j'ai toujours su qu'il m'aimait. Donc, revoyons-nous et pardon si je t'ai blessé. Et pas de réponse. Quelques jours après, maman me dit « Ton père est peut-être mort, est-ce que tu peux appeler ?» Donc, me voilà en train d'appeler la dame qui vivait avec mon père. Et elle me dit « Oui, votre père est mort hier. » Ça ne s'invente pas, ça. Hein. Je lui dis « Vous auriez pu nous prévenir. » Elle me dit avec toute la douleur que vous lui avez apportée. Et je lui dis « Est-ce que vous lui avez remis ma lettre ? Est-ce qu'il a pu lire ma lettre ?» Elle me dit « Sûrement pas, vous ne méritiez pas que je lui donne. » Il y a vraiment des gens qui sont mauvais, hein, parce que je ne vois pas l'intérêt de faire du mal à une gamine que vous ne connaissez pas.
Vous aviez quel âge ?
Oh, j'étais plus une gamine, vraiment, j'avais 25 ans. Et moi, ça m'a appris une chose, c'est qu'il ne faut pas de malentendus. Donc je pense que dans ce côté cash, c'est que je trouve que la vie est trop courte. Moi déjà, j'ai une obsession de la mort, mais qui n'est pas morbide et qui n'est pas triste. Hein. Et... je pense qu'il ne faut pas avoir de malentendu. La pire des choses, c'est que quelqu'un que vous n'aimez pas ne le sache pas, c'est pas grave. Mais que quelqu'un que vous aimez ne le sache pas, c'est vraiment grave. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead-end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. Don't wanna be a richer man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
C'était David Bowie, Changes. On retourne à Image 7 avec Anne Méo.
Femme puissante, Léa Salamé sur France Inter.
Anne Méo, avant la com, il y a eu la politique. Vous rentrez en politique avec cet homme-là.
Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France. Au revoir.
Tu sais, je suis arrivée à l'Élysée, j'étais très jeune, je suis arrivée, j'avais 21 ans. J'avais aucun rôle de pouvoir, hein. Je faisais des notes. Je pense que je suis rentrée parce que, justement, parce que j'étais une femme et que Giscard a dit qu'il faudrait rajouter une fille dans l'équipe, voilà. Et je n'avais pas de pouvoir. Mais petit à petit, je suis restée dans la maison et j'ai continué à travailler avec Giscard après 81. Mais ce qui m'a frappée à l'Élysée, c'était beaucoup d'intelligence et pas souvent le courage de dire.
Vous parlez du courage. Effectivement, vous êtes toute jeune, vous avez 21 ans, éclate l'affaire Bokassa, l'affaire des diamants, et l'affaire monte, et vous remarquez que personne, ni au service presse, ni ailleurs, n'ose aller
personne
dire à Giscard,
n'ose aller dire
c'est devient sérieux.
Personne ne disait au président, monsieur le président, il commence à y avoir un gros problème.
Et vous y allez, vous ?
Mais non, moi, j'ai pas, à l'époque, moi, j'ai pas accès à lui. Moi, je fais des notes pour les conseillers techniques qui voient le président. Et moi, je.
Et vous voyez que juste qu'il se bouge pas, que personne n'ose aller lui dire.
Je vois que personne n'ose aller lui dire.
Et ça, ça va être une règle chez vous plus tard.
Ah oui. Et d'ailleurs, moi, je pense que la chose la plus dure que j'ai faite dans ma vie, après, j'étais capable de tout. Parce que je crois que personne ne m'a impressionné autant que Giscard. C'est en 81. Donc, quand il a perdu, il m'a, gentiment proposé, ainsi qu'à Marie-Hélène Descamps, avec qui j'ai monté Image 7 et qui est toujours une amie merveilleuse. Il nous a proposé de nous occuper de sa communication. Il était parti au mont Athos, oublié un peu, se reposer après la campagne.
Après la défaite.
Après la défaite. Et il nous appelait tous les jours, et on était tous autour de Madame Viltel, sa secrétaire particulière. Et donc, je l'ai au téléphone, il me dit quoi de neuf, et je lui dis quatre ministres communistes au gouvernement, monsieur le président. Il me dit quelle horreur. Moi-même, je dois reconnaître que pour moi, c'était quelque chose de grave aussi. Et je lui dis oui. Mais je lui dis, mais les Français ont l'air très contents. Ils s'en foutent complètement. Et il me dit, mais je rentre. Mais je lui dis, mais pourquoi vous rentrez, monsieur le président? Il me dit, je rentre, parce que c'est grave. Je dis, oui, monsieur le président, mais les Français sont contents. Il dit, oui, mais symboliquement, il faut que je rentre. Je dis, mais monsieur le président, si vous rentrez, personne ne le saura, ça n'a aucun intérêt. Il me dit, oui, mais enfin, vous ferez un communiqué. Et là, je lui dis, mais les Français s'en foutent que vous rentriez, monsieur le président. Ce qui était quand même très vrai, à l'époque.
Vous l'avez dit comme ça?
Oui. Et là, il y a eu un blanc. Il dit, passez-moi Sauzet, donc voilà. Et puis pendant une semaine, il ne m'a pas pris au téléphone. Et je vais dire le 8e jour ou le 6e jour, je ne m'en souviens plus très bien. Il dit, passez-moi Anne. Et il me dit, est-ce que vous avez encore une autre chose gracieuse à me dire? Je lui dis, non, monsieur le président, mais vous avez bien fait de ne pas rentrer. Et je pense que d'ailleurs, des moments comme ça, ça renforce les liens que vous avez avec les gens.
C'est
les gens de qualité vous respectent quand vous osez leur dire des choses.
C'est comme ça que vous êtes avec vos autres clients?
Oui.
Vous leur dites même les choses qui fâchent?
Oui.
Vous n'avez jamais peur?
Non. Mes peurs, elles sont ailleurs. C'est pour ça que j'allais vous dire, pour moi, la vraie vie, elle est ailleurs. Ma peur, ce serait, j'ai trois enfants, c'est qu'il arrive quelque chose. C'est que quelqu'un que j'aime meurt.
Vous n'avez pas peur d'aller
reste,
dire
c'est pas grave.
À un patron c'est... du CAC 40
au pire, je perds un contrat. Je peux en mourir.
D'accord.
Je suis pas... Mon objectif est pas... qu'Image 7 soit la plus grosse agence, etc. Mon objectif, c'est de faire du bel ouvrage, d'être libre et de travailler avec des gens que j'aime.
Voilà. Est-ce que vous trouvez que les politiques et les chefs d'entreprise qu'ils envisagent les femmes de la même manière?
Alors, j'ai eu la chance quand même de faire de la politique à un moment où il y avait des sacrés bons hommes, j'allais dire. On peut aimer ou ne pas aimer Giscard, et moi, je garde pour lui un respect énorme et je le vois toujours, mais c'était quelqu'un d'une intelligence et avec un réel sens de l'État. Moi, j'ai fait aussi pas mal de politique avec la bande à Léo, et on peut dire tout de Madeleine, Longuet, Léotard, toute cette bande, mais intellectuellement, ils étaient quand même nettement au-dessus de la moyenne et ils avaient des convictions. Voilà. Autrefois, il y avait aussi une partie du pouvoir qui venait aussi du budget, c'est l'État, c'est je dépense, donc je suis. Donc quand il n'y a plus d'argent, l'État a moins de pouvoir. Et au fond, vous vous rendez compte que si vous voulez faire bouger les choses, c'est très dur de faire bouger les choses pour un homme politique, à moins d'être président de la République. Où là, vous avez effectivement, vous retrouvez le pouvoir suprême.
Mais sur la puissance des hommes politiques aujourd'hui, est-ce que vous êtes...
Je trouve d'abord intellectuellement beaucoup moins intéressant, pour être franche. J'ai quelques personnes pour qui je garde de l'affection.
Il manque de quoi? Est-ce que vous, la papesse de la COP, vous
c'est
diriez,
eh ben, je
vous
pense
diriez que, c'est, alors, que la politique est devenue gangrénée
non,
par la COP?
Non, oui. Je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense qu'il ne pense plus qu'à la COP. Moi, le jour où je n'aurai pas son nom, le jour où un homme politique que j'aime beaucoup sort quelque chose, je dis, mais tu ne le penses pas? Pourquoi tu dis ça? Il me dit, oui, mais tu comprends, je veux aller chez Anne Sinclair et que sinon... Et là, les bras t'en tombent, tu vois. Le type, pour passer dans... maintenant,
7.
Ce serait, je vais aller chez Léa Salamé et je vais me croire obligée. Donc, ça n'existait pas. Moi, quand je travaillais avec Giscard, c'était pas qu'est-ce qui marche en com. C'était, voilà ce que je veux dire. Et, ou quand j'ai travaillé avec Madeleine, c'est pareil. Voilà ce que je veux dire. Et c'est de m'aider à trouver les mots, le moment, la séquence, la façon d'exprimer ce que j'ai à dire. Mais pas, je regarde les sondages, que veulent les sondages, et ça, cette com'-là me fait horreur.
La politique, les politiques, vous avez arrêté Anne Méo, parce que vous dites, pour une raison de bonheur, je n'étais plus heureuse.
Oui, et de liberté. Moi, j'ai quand même quitté la politique, j'avais 34 ans. Et c'est là où j'ai monté ma boîte. Je voulais pas dépendre des autres. Faut quémander, faut être dans les... J'avais pas envie de ça.
Giscard, c'est plus simple avec les chefs d'entreprise.
Ah ben, moi, je vais vous dire, le jour où je suis arrivée dans la vie, enfin, quand j'ai monté Machette, j'ai trouvé un truc magique. C'est que les gens se demandent qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Si vous êtes bon, ils vous paient, ce qui n'est pas désagréable. Et ils vous respectent parce que vous leur apportez de bons conseils. Ils sont pas en train de se demander quel coup tordu ou qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est des rapports beaucoup plus sains et des sanctions beaucoup plus nettes. Mais moi, j'ai jamais eu peur de la sanction.
Alors, vous avez arrêté les politiques, sauf un. Il y a quelques exceptions. Celui-là.
Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Je vous demande de me suivre.
Ah, François Fillon.
Alors, vous avez conseillé François Fillon, vous êtes resté jusqu'au bout auprès de lui, quand les affaires ont éclaté, après, jusqu'à la présidentielle, et même après, vous avez dit je ne le lâcherai pas, même s'il perd, vous ne l'avez pas lâché. Cette loyauté de soldat, presque, c'est capital pour vous ?
Oui. Oui, oui, je pense qu'on ne lâche pas les gens quand ça ne va pas. Une des choses que je n'ai pas aimées et que je n'aime pas dans la classe politique, c'est cette lâcheté et cette façon de partir au fil des réussites ou des défaites. Moi, j'assume. J'ai choisi d'aider François Fillon parce que son programme me plaisait. J'y trouvais à la fois un programme économique libéral et en même temps des convictions régaliennes et de politique étrangère qui m'intéressaient beaucoup. Moi, je fais partie de la droite libérale et je considère qu'on ne lâche pas quelqu'un qui est dans la difficulté.
Il s'est retrouvé seul, très seul ?
Je pense qu'il s'est retrouvé très seul, mais il y avait des gens comme... Bruno Retailleau, Henri de Castres, Antoine Gosset-Grinville. Enfin, on était un certain nombre de gens toujours là. Gérard Longuet, Hervé Novelli, voilà. Mais j'allais vous dire, c'est presque esthétique aussi.
C'est presque...
Je veux dire, si on
c'est
veut...
plus esthétique que moral, vous voulez dire ?
C'est les deux. Je n'aime pas les gens qui, après, quand il y a une défaite, vont dire, ben normal, il ne m'a pas écouté, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. Ce n'est pas élégant. Moi, j'aime l'élégance. Voilà.
La bérésina de la campagne de François Fillon vous a-t-elle dégoûté totalement de la politique ou si demain il y en a un autre qui vous appelle et qui vous demande de le conseiller, vous y allez ?
Comme dirait Johnny, je rêverais d'avoir envie, mais ce que je veux dire, c'est non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout. Je suis ni blasé ni cynique. Alors, je déteste. Je trouve que quand on vieillit, il faut être ni blasé ni cynique. Sinon, c'est la mort. Voilà, c'est affreux. Moi, je peux me réenthousiasmer demain, croire dans les choses.
Il
simplement,
est où,
je l'ai pas vu.
Voilà, c'est ça que j'allais vous dire.
Je ne l'ai pas trouvé.
Il n'est pas là.
Je ne l'ai pas cherché.
Il n'est pas dans le spectre.
Ne l'ai pas vu.
Une sorte de papesse de la communication. Elle conseille beaucoup d'entreprises.
Vous êtes réputée comme étant la grande prêtresse de la communication du patronat français.
Dans un somptueux bureau du 17e arrondissement, je suis chez Image 7 avec Anne Méo.
Bonjour Anne.
Bonjour.
Vous avez donc une connaissance presque intime du mode de fonctionnement des cadors du capitalisme français.
J'ai le droit de dire femme de l'ombre, hein, Anne Méo.
Oui, moi c'est un mot que je n'aime pas, vous savez, mais...
Pourquoi vous n'aimez pas ça ?
Parce que ombre, ça sous-entend des tas de choses glauques et il n'y a rien de glauque.
Je pense que les gens reprochent à leurs dirigeants de truquer et de ne pas dire la vérité.
Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une cause ou pas forcément ? Vous pouvez vous battre pour des causes qui ne vous appartiennent pas.
De toute façon, si le client me déplaît, je le refuse.
Pour sa défense, Carlos Ghosn est entouré d'avocats et d'une grande communicante appelée Anne Méo.
Ouais, moi mon but c'est de réhabiliter l'image des gens qu'on a salis. Dès que quelqu'un est détesté dans l'opinion, il m'appelle. Voilà, je me suis occupé de François Fillon, Ben Ali, les épinards à la cantine.
Je dis toujours en riant, je suis une nanar de droite. C'est-à-dire que quelque part, j'ai un certain nombre de valeurs ancrées et en même temps, je suis très rebelle. Ouais.
En quoi vous êtes rebelle, Anne Méo ?
Je pense qu'il faut se faire son jugement que par rapport à soi-même et à ses convictions, à ce qu'on croit, qu'il ne faut surtout pas être borné, qu'on peut évoluer, qu'on peut changer. Mais je déteste... l'ordre établi, je déteste...
Le conformisme.
Le conformisme. Je déteste les gens qui vont dans le flot de la bien-pensance et des bonnes idées. Et oui, je pense que j'ai toujours été rebelle.
Alors oui, vous avez toujours été rebelle. Oui. On est en mai 68, vous avez 14 ans. Oui. Et vous êtes du côté des anti-grèves.
J'ai monté un comité anti-grève dans mon lycée Jules Ferry, Place Clichy.
Alors comment c'est possible ?
Parce que contrairement à la légende, je ne suis pas une jeune fille du 16e arrondissement. Eh ben, c'est possible en ce sens.
Comment
que...
à 14 ans, on vit mai 68 et on est de l'autre
j'étais
côté.
J'étais très intello. Oui, mais parce que moi, j'avais lu des bouquins, j'étudiais, j'avais lu Marx. J'étais assez précoce. J'avais des minettes en folie qui voyaient simplement des garçons qui arrivaient dans le lycée, ce qui, en plus, je trouve, est débile et dégradant, parce que ça, enfin, voilà, et qui se mettaient en grève juste pour le fun, parce qu'il y avait assez peu de, il y avait quelques gens convaincus, mais il y avait assez peu de convaincus. Et puis moi, je déteste. Je vous dis les, je vais vous paraître horriblement réactionnaire, mais je pense qu'on a cassé avec la loi Edgar Faure l'école laïque républicaine qui a été le facteur de l'ascension sociale. Pourquoi des générations, moi mes copains Madeleine et Longuet, qui viennent de milieux extrêmement modestes, ils ont fait des études brillantes parce qu'ils étaient dans des lycées parisiens. Voilà, et moi je suis allée au lycée d'ailleurs avant de rentrer à Sciences Po. Et tout ce système a abîmé l'école publique, qui fait qu'elle n'est plus du même niveau que l'école privée, qui fait que d'ailleurs, il y a maintenant une différence de chance incroyable entre des enfants qui sont allés dans des écoles privées qui leur permettront de passer les grands concours, et c'est pareil au niveau de la fac. Et j'allais vous dire d'ailleurs, le seul ministre, enfin pas le seul, mais celui pour qui j'ai du respect, c'est Blanquer, parce qu'il va essayer de faire quelque chose, et c'est fondamental.
Donc si vous êtes rebelle, mais Réac aussi, vous assumez les
mais
deux.
Mais ça n'a rien à... C'est pas du tout... Hein. Est-ce que vous ne croyez pas que toute cette gauche bien-pensante n'est pas... complètement tradit. Ah
non, je l'attendais. C'est bien, on vous retrouve à Méo. Au moins, ça a le sens de la franchise. Plus tard, d'ailleurs, vous avez flirté, après 14 ans, vous avez flirté avec le groupuscule d'extrême droite Occident. Vous assumez...
Je tiens juste à dire qu'Occident a été dissous en 68. J'avais 14 ans, j'étais au lycée. Je ne savais même pas qu'Occident existait. Hein, juste pour
donc
Occident.
C'est faux, Occident.
C'est parce qu'Occident, c'est enfin, d'autres copains
c'est Madeleine,
qui étaient plus vieux.
C'est...
Oui, mais ils ont quand même 10 ans de plus que moi, ces garçons.
Oui.
Juste pour vous dire. Non, moi j'ai été.
Mais vous êtes proche idéologiquement d'eux.
Non, mais j'étais anticommuniste et j'ai mené des listes, etc. Mais ça, c'était pas Occident.
Vous assumez tout, quoi. Je veux dire, vous n'êtes pas de celle qui va dire.
Mais dans ma génération, le combat pour les libertés. Attendez, j'ose espérer que 30 ans avant, je me serais battue contre le nazisme. Moi, j'ai été élevée, mon père me disait, cette police de Vichy, qui déjà n'a pas le courage de dire, mais qui en plus fait du zèle pour ouvrir les placards, pour trouver le gamin juif, au lieu de faire beaucoup de bruit, pour qu'au moins tout le monde puisse s'en aller, on ne demande pas à tout le monde d'être un héros, d'où ce devoir de désobéissance. Pour ma génération, pour moi, les atteintes aux libertés, le totalitarisme, c'est le communisme, c'est le goulag, c'est tous ces régimes-là, à une époque où quand même tous nos beaux intellectuels trouvaient ça formidable. Je vous rappelle qu'Yves Montand et Simone Signoret ont mis quand même très longtemps à se rendre compte que c'était pas extrêmement délicieux à l'Est.
Et aujourd'hui, ce serait quoi votre combat ?
C'est sûrement une liberté pour les femmes. Et puis, oui, ça devient le féminisme un peu, mais pas un féminisme. C'est pas contre les hommes, mais c'est l'égalité des femmes.
Vous dites je suis résolument féministe.
Ah oui ?
Vous l'assumez ?
Oui.
J'ai toujours voulu avoir une vie, je dirais, indépendante. C'est-à-dire de ne pas gagner ma vie moi-même, ce que j'ai fait en passant les examens et en devenant professeur, et ensuite avoir une activité qui vraiment me tienne à cœur, parce que je pensais qu'il fallait à une femme une certaine solitude et une liberté qui ne peut venir que de cette certaine solitude, et que même si on s'entend très très bien avec quelqu'un, il ne faut pas être entièrement dévoré par une vie commune.
Simone de Beauvoir qui dit dans Le Deuxième Sexe, c'est le travail qui peut seul garantir la liberté concrète de la femme.
Je suis totalement d'accord. Et quand on a la chance de pouvoir le faire, les études qui vous donnent un accès de plein pied d'égalité, c'est quand vous, dans des concours ou trucs, vous êtes meilleur que les garçons, ça vous aide déjà à même pas vous poser la question.
Vous êtes pour la discrimination positive, pour les quotas ?
Par orgueil, j'étais contre. À l'origine.
Vous avez évolué.
Ouais, j'ai évolué parce que faut bien faire bouger les choses et que ça a quand même fait bouger les choses. Giscard était un grand féministe, hein, et c'est le premier à avoir nommé 4 femmes ministres et ministres pleins, hein. Il avait fait avec de Giroud un ministre de la condition féminine. C'est lui qui a, avec Simone Veil, fait cette loi sur l'avortement, l'IVG. Et moi-même, je sais que j'ai recruté, il y avait probablement des garçons peut-être qui avaient des profils plus tradis justement, mais parce que j'étais une femme. Donc je suis un des exemples de dire qu'à l'origine cette discrimination positive, mais après vous savez, elle n'a qu'un temps. C'est-à-dire qu'à vous d'être meilleure. C'est-à-dire que si vous rentrez par une discrimination positive et que vous n'êtes pas bonne, vous vous cassez la figure.
Alors vous, vous faites quasiment de la discrimination positive à l'inverse chez vous, puisque la plupart de vos salariés
c'est
sont
moins
des
vrai.
Femmes.
Alors d'abord, je crois que nous sommes 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes.
Bon. Ouais. Pourquoi ? Parce que la com, il vaut mieux une femme ?
Non, pas du tout. C'est parce que moi, j'aime travailler avec les femmes. C'est-à-dire que je pense que quand les femmes sont... Vous parliez des femmes qui minaudent. Celle-là me fatigue, pour parler clair. Mais celles qui ne minaudent pas et celles qui bossent, elles sont beaucoup plus... elles sont très fiables, en général. Moi, je crois à l'intelligence collective. On peut énormément partager.
Elles ont moins d'égo.
Il y a moins d'égo. Oui, ouais. Il y a beaucoup plus de bon sens et on est plus dédié à l'objectif qu'on a et pas à soi-même dans la glace.
Elles peuvent être aussi dans une forme de jalousie, les femmes, entre elles.
Mais pas ici, parce qu'elles sont de qualité. Je crois énormément à l'intelligence collective. Intelligence collective, pas se gourer, hein, c'est des gens intelligents qui ont des formes différentes d'intelligence et qui n'ont pas peur de donner leur point de vue. Et je veux dire que les hommes nous apportent beaucoup, hein, donc c'est pas...
C'est pas interdit aux hommes, image 7.
Non, il y a beaucoup d'hommes très heureux ici.
Il y a beaucoup de femmes et il y a beaucoup de belles femmes. Vous les choisissez belles particulièrement ? C'est la meilleure carte de visite ?
Non.
Ah là, j'ai fait un tour dans vos étages, elles sont toutes belles.
Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Ben d'abord, elles sont bien dans leur peau, parce que vous savez, il y a plein de façons d'être belles. Je pense que se réaliser... Être intelligente, se réaliser, être heureux dans ce qu'on fait, déjà, ça vous rend beaucoup plus belle. Mmh. Écoutez, j'en sais rien, faudrait les interroger.
C'est vous qui les embauchez ?
Bah, franchement, je suis totalement hétérosexuelle, je crois qu'il n'y a pas de mystère. Peut-être qu'il n'y a qu'une femme qui peut dire ça, mais les gens ici sont bien dans leur peau, bien dans leur vie. S'ils ont des soucis, on est solidaires dans la maison entre nous. Hommes ou femmes confondus. Hein. Mmh. Et ce qu'on cherche, c'est l'intelligence.
Vous avez remarqué que dans les cabinets ministériels, les conseillers politiques, c'est des hommes, et à la com, c'est toujours des femmes ou presque.
Oui, mais alors moi, quand j'ai fait de la politique, j'étais conseiller com, mais j'étais conseiller politique aussi. Hein. Mmh. Et je pense que là, je connais mal les nouveaux cabinets ministériels, mais il y a com et com. Soit vous dites le ministre sortira par la porte droite à 18h07, soit vous travaillez avec lui sur son texte, sur ce qu'il veut dire, sur ce qu'il veut faire. On peut être conseiller politique et conseiller com.
Écoutez ce témoignage très fort d'une actrice.
On considère qu'on a inventé avec MeToo la violence qui était faite aux femmes. Mais non, c'est juste qu'on a tellement encaissé en fait. On a tellement encaissé. Et c'est possible de faire autrement société. C'est bien pour tout le monde, c'est bien en premier lieu pour les victimes, mais c'est bien pour même les bourreaux, en fait, qui se regardent en face. C'est ça, être humain. C'est pas écraser et essayer d'obtenir du pouvoir. C'est se remettre en question et accepter ça, et accepter le côté multidimensionnel de ce que c'est qu'un être humain. Et comme ça, on fait une belle société. Comme ça.
Adèle Haenel, vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Ça vous a touché ?
Oui, je suis d'accord. Il y a une évolution qui est très importante du comportement des hommes, des pères d'ailleurs, des hommes par rapport aux femmes et des hommes par rapport à leurs enfants. Je pense qu'il y a des comportements qui pouvaient être banalisés avant qui ne le sont plus. Moi, j'ai eu une chance, c'est que je pense que j'ai un caractère fort. Mais je pense que c'est venu du fait d'avoir été aimée. Et du coup, les prédateurs s'attaquent plus aux gens plus fragiles. Moi, ça m'est arrivé une fois.
Vous avez subi du harcèlement une fois ?
Oui, enfin, j'étais jeune militante et il y a un avocat qui a fermé la porte du bureau à clé. Bon, voilà. Mais j'ai pris le coupe-papier. Pourtant, j'étais jeune, hein, je peux vous dire. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, c'est simple, vous ouvrez cette porte. Et on a parlementé un quart d'heure. Je lui ai un peu déchiré sa chemise. Il a rouvert la porte et je suis partie. Et je dois dire qu'en bas, je me suis mise à pleurer. Et moi, après... J'ai pourtant vécu dans un univers d'hommes.
Oui.
J'ai beaucoup de messieurs qui m'ont fait la cour, et Dieu merci, parce que le jour où on vous fait plus la cour, vous avez le sentiment d'être très vieille. Mais personne ne m'a jamais manqué de respect.
Ouais. Voilà. Mais tout ce qui s'est passé là depuis 2 ans, MeToo, le balance ton port, tout ce qui s'est passé, pour vous c'est salutaire ? Ça va changer les choses ? Ça marque quelque chose ? Ou ça vous a mis mal à l'aise, comme d'autres femmes ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je pense que c'est comme pour les quotas. Moi, j'ai la chance de vivre dans un monde policé où les hommes sont bien élevés, charmants, qui vont pas essayer de forcer. Ce qui me choque, moi, profondément, c'est l'abus de pouvoir. Moi, qu'un homme drague une femme, et à la limite qu'il soit un peu insistant, on lui colle une paire de claques, voilà.
Vous en avez déjà collé une de paire de claques
à
un politique?
Oui.
Lequel?
Je vous le dirai pas.
Un indice.
Non, je le dirai pas. Surtout, vous aurez du mal à trouver. Et aucun de ceux
qu'on a cités.
L'abus de pouvoir me choque beaucoup. C'est-à-dire le contremaître qui essaie de profiter, l'augmentation qu'on donne pas. Ça, c'est inadmissible, mais c'est comme l'égalité de salaire. Enfin, je n'arrive pas à comprendre que dans notre époque, on ne paie pas un homme et une femme pareil. C'est quand même un scandale. Et que maintenant, on mette comme objectif de RSE l'égalité homme-femme. Alors là, dans le nouveau combat, c'est un truc qui me révulse.
Pourquoi ?
Parce qu'un homme et une femme doivent être payés pareil. C'est à chacun selon ses compétences, sa fonction, son job.
Donc comme pour les quotas, comme pour la discrimination positive, au fond, le mouvement MeToo...
Oui, a fait du bien.
Ouais. C'est-à-dire que même une femme comme vous qui, a priori, pourrait regarder ça en disant...
Je pense que ça a fait du bien.
Ouais.
Voilà. Après, on va pas vivre la guerre des sexes. Hein. Non.
Je vous ai demandé, comme à chaque femme, une chanson qui vous parle des femmes puissantes ou qui vous évoque les femmes puissantes, et vous avez choisi ça.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage à peine vus déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà. Et le cœur nu, je refaisais mes bagages et poursuivais mon virage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importe décembre, si c'était pour vous, elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure, si ce soir je vous jure, que pour vous je lui fête à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et je calme ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est le choix musical d'Anne Méo.
France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
Anne Méo, pourquoi Barbara ?
Alors d'abord, Barbara, toute mon adolescence, je passais Barbara en boucle, j'adorais Barbara. J'aime ses mélodies, j'aime cette femme qui est puissante et fragile. La vraie puissance qu'on peut souhaiter aux gens, c'est de réussir sa vie. Et réussir sa vie, je sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi, c'est pas un truc du regard des autres, de se dire elle est la papesse de ceci. C'est avoir le sentiment d'avoir pu vivre toutes les vies qu'on voulait mener, Moi, j'ai la chance d'être la maman de trois enfants que j'ai élevés, dont je suis extrêmement fière. Et je pense que je suis pas vaniteuse, sauf quand on me parle de mes gosses, où je peux devenir grotesque. J'ai la chance d'avoir bâti cette entreprise que j'aime et qui m'amuse toujours autant et qui me passionne. J'ai la
Mais
chance...
Votre plus belle histoire d'amour, c'est quoi, pour reprendre le titre de la chanson?
Ah, ça ne vous regarde pas.
Vous parlez de vos enfants. Deux de vos filles travaillent avec vous, je crois. Elles prennent la relève. Comment on fait avec votre caractère, votre force, votre puissance, donc, pour ne pas être écrasante comme modèle pour une fille?
Alors d'abord, c'est pas moi qui leur ai proposé. Il y a maintenant... 5 ans, je crois. Je dis à Charlotte, qui est ma fille aînée, je lui dis, chérie, cherche quelqu'un comme toi, de 30 ans, intelligente et créative. Et elle me dit, moi. Je dis, oui, comme toi. Elle me dit, non, je te dis, moi. Et je lui dis, mais t'as un job? Elle me dit, oui, mais j'ai envie de travailler à Imachette. Elle me dit, j'ai plusieurs copines qui travaillent là, ça a l'air formidable, on vous laisse des responsabilités, on peut avoir une vraie créativité, l'ambiance a l'air géniale. Et je lui dis, mais c'est pas un peu dur d'avoir une mère...
J'allais pas dire vampirisante, mais enfin, vous êtes là, voilà, quand même, alors, vous
voit. Elle a éclaté de rire, elle me dit, mais alors, j'ai jamais eu ce sentiment. Elle me dit, je disais ça uniquement, on appelait ma maman Baba, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, je disais simplement ça quand Baba me cassait les pieds avec tes résultats scolaires. D'ailleurs, c'est le plus joli cadeau qu'elle m'a fait. Elle m'a dit, mais jamais je ne t'ai sentie écrasante. Et elle est rentrée, voilà. Et la seconde, c'est l'été dernier, elle me dit, tu sais, j'ai parlé avec ma sœur. Si t'en étais d'accord, on pourrait peut-être, je pourrais peut-être rejoindre aussi Imach7. Je lui dis, mais tu sais, ma chérie, comme c'est compliqué. Je voudrais pas qu'il y ait une compétition entre ta sœur et toi. Elle me dit, on s'entend assez bien, on s'aime assez. Je dis, est-ce que c'est facile de travailler avec sa mère? Elle m'a dit, mais pour nous, c'est pas un problème. Donc, je vais quand même pas dire à mes propres filles qui me disent que c'est pas un problème. Et donc, je dis à mon fils, qui lui bosse chez Ardian à Londres, qui est encore un peu plus jeune, et je lui dis, bon, c'est l'inverse, je lui dis, je vais quand même regarder pour les répartitions, s'il m'arrive quelque chose, etc. Il me dit, mais tu peux pas me mettre en dehors d'Imachette? Je lui dis, mais comment? Et il me dit, bah écoute, un jour, elles auront besoin, moi je ferai un family office, c'est ça, c'est drôle. Et donc, je découvre une chose, mais qui est plutôt encourageante, hein, s'il y a des jeunes femmes qui nous écoutent, c'est, si vous parlez de votre job, mais que vous vous occupez de vos enfants et que vous faites tout ça avec passion, vous vous retrouvez finalement avec des enfants qui aiment autant votre boîte que vous. Et ça, c'est un cadeau récent, mais c'est un cadeau de la vie. Après, c'est comme tout cadeau, un danger. C'est-à-dire que j'ai conscience de tous les risques, j'ai surtout peur pour elles, j'ai pas peur du reste.
Vous avez quoi comme conseil à leur donner, vos filles?
D'être courageuse, de douter en permanence, mais de choisir. Ça vous va?
Ça me va, je prends. Est-ce qu'une femme peut autant qu'un homme avoir une grande carrière, une vraie réussite, une vie amoureuse et une et une vie de famille?
Oui, j'en suis persuadée. D'abord, je pense que plus on fait, plus on fait. Vous n'avez pas remarqué dans les pyjama parties, les mères toujours en retard, qui oublient les trucs, c'est toujours celles qui ne travaillent pas. Elles ont toujours une bonne raison. Enfin, moi, j'ai vécu ça tout au long de ma vie de maman. Il faut simplement, en revanche, avoir une bonne santé.
Vous avez l'air de tout contrôler, Anne Méo, votre vie professionnelle, votre vie sociale, votre vie privée. Est-ce que vous avez déjà fait des choses folles?
Mais je ne vous les dirai pas.
Je ne vous demande pas de me les dire, mais je voudrais savoir si
Oui, plein, bien sûr. Je n'ai jamais rien programmé dans ma vie. Donc je suis...
Mais vous pouvez faire des choses irrationnelles,
totalement.
Par amour ou pour autre chose.
Oui, mais je trouve que faire des choses par amour, ce n'est pas si irrationnel. C'est beaucoup plus sage que de faire des choses par ambition ou par programmation. Encore une fois, je pense que je suis vitale. C'est-à-dire que je crois dans la vie, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de sa vie. Et dans la vie, il faut savoir ce qui est important pour soi. Pour moi, ce qui était important, c'est la liberté. C'était l'indépendance, mais c'est des histoires de famille et d'enfants. C'était pas de compromis. Et oui, c'est l'amour. L'amour des hommes, l'amour de vos enfants, l'amour de vos amis. C'est très important pour moi, la dimension amitié et amour.
Vous avez parlé de votre père très vite, votre père qui a donc quitté quand vous aviez 16 ans le domicile familial et que vous a laissé seul. Vous dites que votre mère a sombré. Est-ce que, au fond, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réalisé...
Mais ma mère...
Est une manière de la venger, votre mère.
J'aime pas le mot vengeance parce que il y a un mot guerre et je me sens pas dans la guerre. Je pense qu'en revanche, maman m'a beaucoup marquée. D'abord, c'est une femme extrêmement intelligente, d'une qualité intellectuelle très, très, très intelligente. Mon père était puissant, limite médium, d'ailleurs, c'est marrant. Maman, c'était le raisonnement et l'intelligence. Vous voyez, elle était plus intelligente que lui, je pense. Mais très fragile et pas faite pour les combats. Donc, je pense que j'ai une part de mon père, donc de force. Mais je pense que cette force, et on revient à la puissance, il faut la mettre justement au service des gens plus fragiles ou plus faibles. Je ne sais pas ce que c'est que la faiblesse. Je ne sais pas ce que c'est que la fragilité.
Quelques questions de fin. Vous répondez spontanément ce que vous voulez. Vous êtes un homme pendant 24 heures. Vous faites quoi?
La même chose.
Quelle est la femme qui vous a le plus bluffé dans votre vie?
Alors, il y a un truc facile, mais c'est quand même vrai. J'ai eu la chance d'être à l'Élysée quand Simone Veil défendait l'IVG. Et franchement, elle m'a impressionnée.
L'argent fait-il le bonheur?
Non. Et je pense même que les gens très riches ne sont en général pas heureux. Mais à l'inverse, je pense que l'argent peut donner une liberté. C'est pas une fin en soi, c'est un moyen.
Pour vivre heureux, vivons cachés. Vous êtes d'accord avec ça?
Assez.
S'il fallait en choisir un, Chirac ou Sarkozy?
Je suis pas obligée.
Giscard.
Giscard, oui.
Bernard Arnault, François Pinault?
Ah là, j'hésite pas du tout, François Pinault. Mais c'est un homme que j'admire, que je respecte. Et il aime gagner et bâtir, mais c'est un vrai entrepreneur. Je pense que l'argent n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'entreprise, c'est l'aventure. Et oui, pour moi, c'est un modèle.
On a commencé cet entretien avec François Pinault, on le termine avec lui. Anne Méo, est-ce que vous avez beaucoup menti dans cet entretien?
Non. Je crois même pas du tout.
Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Au revoir.
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois. Je tiens dans ma main ton poing serré et rien ne peut nous résister puisque nous l'avons décidé. Personne n'a jamais serait facile.
Clara Luciani à l'instant sur France Inter, ma sœur Clara Luciani qui signe le générique de Femme puissante. Cette émission était préparée par Outish Raniti, Céline Villegas, Mathieu Sarda et Marie-Elisabeth Jacquet. À la prise de son, Laurent Lucas, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la réalisation Sonia Leglaine. Bon dimanche à tous et à toutes, les femmes puissantes et les autres.